les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Demander à un peintre ce qu'il peint et qui il est, il y a peu de chances que la réponse, que les réponses, soient éclairantes. L'art ne conclut jamais, ne procède que dans l'incertitude et le peintre, qu'on se le dise, ne sait pas qui il est. De plus, il n'y a pas de solution en peinture car il n'y a pas de problème, c'est bien connu. Alors, l'actualité du peintre. Une actualité dans le Nord et une autre à Paris. Une actualité souterraine. Nous étions au milieu des années 1980 et si l'exposition n'est plus aujourd'hui d'actualité, celle du Nord, la création qui allait bientôt éclore en plein quartier latin est toujours visible, ainsi que peuvent le constater les usagers du métro, du moins ceux de la ligne 10. Les Arts et les gens, par Pierre Descargues, monographie Jean Bazaine, première diffusion sur France Culture le 10 novembre 1986.
Son atelier a brûlé en 1945, c'est pourquoi on connaît mal l'œuvre d'avant-guerre de ce peintre né en 1904. Mais on voit bien d'où il est issu, Jean Bazaine. Cézanne au loin, plus près de lui, Pierre Bonnard et Jacques Villon pour la couleur, Marcel Gromaire pour le dessin. Et puis, la culture des gens de sa génération, les arts océaniens plus que l'art africain, les fresques des églises romanes, et puis les manuscrits à peinture du cycle des Apocalypses de Béatus, l'Espagnol. Son milieu intellectuel, c'était la revue Esprit d'Emmanuel Mounier qui réactualisait les valeurs spirituelles. Auprès de lui, pendant la guerre, les poètes à André Fresneau, Jean Tardieu, Guy Vic. Et puisqu'il fut dans la mouvance du mouvement Jeune France, j'imagine aussi les musiciens Olivier Messiaen et André Jolivet. Du côté des peintres, Maurice Estève, Charles Lapicque, avec des aînés qui les regardent faire, ces jeunes, Jean Paulhan, Marcel Arlan. La génération était forte, elle avait sa cohérence, elle avait des refus très nets. Le surréalisme n'a pas attiré leurs 20 ans et l'abstraction n'a pas été leur domaine.
La vie d'un peintre, c'est à rebours qu'elle se déroule. Le peintre naît vieux. Un lourd héritage de passé l'embarrasse. Trop de géants guettant ses premiers pas l'empêchent de marcher. La nature s'offre à lui riche jusqu'à l'écœurement. Encombré de béquilles, il lui faudra une à une les briser. Le plus dur, disait Villon, ce sont les 50 premières années. La jeunesse, en peinture, se conquiert lentement. Elle sera donnée en prime aux vieillards méritants. Il faut avoir longtemps sucé le lait de la terre pour parvenir à l'ivresse nécessaire. L'amour fou, c'est la cuvée du grand âge.
Ils se retrouvèrent dans une peinture qui fut pendant la guerre la mise en couleur et en forme du plus précieux de la vie, l'existence abritée dans les demeures. Une corbeille de fruits devant la fenêtre, une femme à l'enfant, des valeurs simples et qui retrouvaient, à cause de leur précarité soudaine, un sens très fort et le texte de Paul Éluard par son titre en témoigne, le lit, la table. Cet espace clos se souvenait des règles que Cézanne avait affirmées dans sa peinture. Offrir en face, en pleine figure, au regard, le plan de la table et le creux du pichet. Mais ils ajoutaient la musique des couleurs vives, comme si l'archet d'un violon faisait chanter le jaune et le rouge sur le bois des chaises. Pour Estève, l'hommage à Cézanne, une reproduction appuyée au bras d'un montant d'un dossier. Pour Bazaine, des objets devant la fenêtre. Cette année de guerre 1942 n'a été gaie que dans quelques tableaux où la vie la plus fervente, dans des demeures closes, par le couvre-feu et la police, se maintenait sous le terme « nature morte ».
Une toile nous ramène 20 ans en arrière, une autre à 20 ans d'avance sur notre vie. La première nous met aux prises avec les mêmes difficultés qu'autrefois. Nous reconnaissons notre impuissance à les surmonter. Nous la voyons, stupéfaits, se développer implacablement, nous opposant les mêmes refus, comme si rien, depuis, n'avait été acquis et, pensions-nous, dépassé. L'autre nous sort des mains, Dieu sait comme. Nous la regardons avec étonnement, si insolite, sans contexte rassurant. Nous ne savons rien d'elle. Elle ne se rattache à rien de ce que nous connaissons, à aucune de nos recherches actuelles. Elle nous inquiète. Nous sommes tentés de la détruire.
En 1950, cette peinture, là, elle s'est exportée vers les États-Unis sous le titre Advancing French Art. 5 ans plus tard, elle était encore vedette dans les biennales internationales et autres documenta. C'est de la peinture qui maintient l'amour de la peinture comme une aventure possible au-delà des mouvements précédents les plus radicaux qu'ils aient été. Ces artistes manifestent leur accord avec l'art des musées. Oui, c'est étrange. Ils semblent révolutionnaires et ils revendiquent la parenté. Avec eux, il apparaît que l'art de Delacroix ou de Poussin a une telle richesse d'expression qu'il peut aussi s'exprimer dans la vision moderne. Cette vision qui va au-delà des apparences, qui témoigne du savoir croissant des hommes sur la dynamique des échanges vitaux. L'Église, bien sûr, va comprendre très rapidement que les images nouvelles de la vie ont leur place dans les espaces sacrés. Et dès 1951, Jean Bazaine commencera à Audincourt, dans le Doubs, par des mosaïques, une suite de grandes surfaces, où le mouvement de la vitalité du monde incitera les fidèles à la méditation. Leur aboutissement se trouve dans les vitraux de l'église Saint-Séverin à Paris. Cet art non figuratif, je n'ai pas dit abstrait, s'est ainsi introduit à sa juste place dans les églises qui sont les derniers lieux où l'on parle bas pour laisser aux voisins la possibilité d'écouter d'autres voix que celles de la vanité et des haut-parleurs.
L'art ne conclut jamais parce qu'il ne procède que dans l'incertitude. Le peintre ne sait ni d'où il vient ni où il va. Et il ne sait qui il est. Il ne progresse pas dans la sécurité, même fragile, des problèmes résolus. Il n'y a pas en peinture de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Georges Braque dit « Ce qui m'a toujours sauvé, c'est que je n'ai jamais su ce que je voulais ».
Ensuite, le bruit, le vacarme a été croissant. Les vagues nouvelles ont succédé aux nouvelles vagues. On a écrit l'histoire au semestre. L'idée de longue durée s'est estompée. On a consommé sans répit de nouveau, comme les chiens se font offrir sans cesse des conserves alimentaires nouvelles. Et puis Jean Bazaine, voilà, il continue à peindre. Ces organisations verticales, horizontales, se sont enrichies d'obliques, de remous, de nœuds et de dénouements. Ce n'est pas seulement sa nature qui a changé. Son paysage s'est secoué dans des houles et des déferlantes, comme s'il s'étendait aussi bien dans le calme des polders et des étangs. J'ai regardé une liste des titres qu'il donne à ses œuvres. Dernière neige à Roche-Taillée, la mer à midi, C'est l'impressionnisme de Debussy et de Monet qui ressurgit dans son entente avec la rencontre de Passant dans l'aube ou de Soir de neige. Mais s'il reprend la richesse du moment exceptionnel de la nature, en même temps la culture reçue au musée accompagne l'expérience. Et le paysage de Saint-Guénolé en Bretagne, par exemple, va recevoir un second titre, Hommage à Watteau. Depuis quelques années, il semble que l'écriture sur le vif du mouvement de la vie, la sténographie du spectacle, s'accorde de plus en plus avec l'acte de peindre. Autrement dit, ce que l'œil cherche sur des bateaux secoués par le vent dans le port coïncide de plus en plus avec ce que le pinceau trace sur la toile, comme si l'objet du regard était entré un peu plus dans l'acte de peindre. Nature et peinture se sont superposés, ils se mêlent intimement.
On parle de la mort de l'art, de la mort de la peinture. Et en un sens, c'est toujours vrai. Le peintre crée la peinture en peignant. L'art ne vit qu'en danger de mort. Il est constamment arraché à sa mort. Et il meurt lorsqu'il sacrifie son destin, qui est de témoigner pour la liberté en remettant sans cesse en question sa propre existence.
Arrivé à cette identité dont les Chinois disent qu'elle a pour caractéristique de n'être atteinte que tard dans la vie. Voilà ce que nous ont dit ces récents tableaux exposés à la Fondation Noroy à Arras, chez les Petitot, cette vieille maison dont le volume a été ouvert de bas en haut pour qu'on monte d'un étage à l'autre à l'intérieur, à la suite d'un spectacle dont l'intérêt va crescendo. Noroy à Arras, sans doute le plus beau lieu pour la peinture qui soit en France.
Qu'est-ce donc en effet que cette quête de lumière, d'une lumière, si ce n'est un appel lointain vers quelque chose d'autre, un appel qui se manifeste par le besoin d'une certaine ascèse, bizarrement alliée à la plus franche sensualité, une injonction à quoi le peintre est obligé de répondre et d'obéir. En lui ordonnant de laisser tomber tout le superflu, de ne jamais se satisfaire de ses propres réussites, de chercher toujours au plus près de la vie, ce qui est la seule manière de viser au-delà, de rester patient et humble devant les plus familières révélations de la splendeur des choses. Une vague qui se brise sur un roc, la pluie qui voile un golfe, le soleil qui fouille les halliers. Cette exigence, à la fois la plus modeste et la plus ambitieuse, force Jean Bazaine à s'avancer toujours plus loin dans le sens du dépouillement, vers une libération absolue. Jean Tardieu.
Voilà, Jean Bazaine. On a gravi les marches, l'escalier qui serpente, et on est au dernier étage devant les tableaux récent. Et il y en a un, il me semble, à le voir, qu'il y a une espèce d'explosion lumineuse au centre et que le soleil va apparaître. Mais c'est peut-être pas ça qu'il faut dire.
Si, au fond, c'est ça. J'ai appelé Marée Basse à midi. Et maintenant, comme c'était le début d'une série de toiles tout à fait clarifiées et auxquelles je ne croyais absolument pas, je les ai appelées Ouverture. Il y a une série de 10 toiles qui seront exposées chez Mac, d'ailleurs, au printemps prochain. 10-11 toiles, quoi. J'ai cherché l'extrême de la lumière, quoi. L'espèce d'allègement et de dépouillement, plutôt.
Et c'est le blanc qui monte.
C'est le blanc, oui, c'est même le blanc de la toile, enfin. Et alors, ici, justement, On a voulu commencer, c'est pas moi qui ai organisé l'exposition, par une série de toiles blanches de 71-72, que tu connaissais d'ailleurs, qui était aussi, mais qui était moins dépouillée, moins austère peut-être que celle-là, je ne sais pas. Mais ça, c'est l'âge, hein, où on se dépouille, où on s'enfonce de manière quelconque, quoi.
Vous avez beaucoup parlé de l'âge du peintre, c'est important, hein. C'est le moment où on gagne le plus, non?
Oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Bah oui, j'ai fait un libre exercice de la peinture. Oui. En effet, c'est le vieux nageur qui va vers un but qui, heureusement, il ne connaît pas et qu'il n'atteindra jamais. C'est un peu ce qui m'arrive.
Est-ce qu'on nage mieux?
Non, non, on nage toujours de plus en plus mal. Ça, non, absolument pas. Je me souviens que, j'ai souvent rappelé le mot de mon vieil ami Villon, qui disait le plus dur sont les 50 premières années, hein. Et, j'ai passé les 50 premières années, et c'est de plus en plus dur. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Parce que si on atteignait quelque chose, on s'arrêterait. Non, pour l'instant, je suis assez pris par les... au fond, toute ma peinture m'a amené vers quelque chose de monumental. Et alors là, il se trouve que j'ai trois grands chantiers en train. L'un, Saint-Dié. Alors là, la cathédrale de Saint-Dié, qu'on m'avait proposé, il y a 400 mètres carrés de verre. Et j'ai proposé un travail collectif. C'est-à-dire que nous sommes 10 là-dessus, dans mes vieux amis, Manessier, Lemoyle, Geneviève Haas, deux ou trois autres plus jeunes. Enfin, on s'est partagé. Moi, je me suis gardé un très gros morceau, puisque c'est à moi qu'on l'avait demandé. J'ai 100 mètres carrés de vitrail là-bas. Et ça marche bien. Il y a eu deux cathédrales qui démarrent en même temps, c'est Nevers et Saint-Dié. Je suis un peu, entre guillemets, bien sûr, j'ai été un peu le maître d'œuvre. J'ai donné une espèce de coloration générale que personne n'a suivie, heureusement d'ailleurs. Le seul qui est fini pour l'instant, c'est Manessier. Il a fait, à mon avis, les plus beaux vitraux de sa vie. Tous ces gens-là continuent à travailler. En principe, ça devrait être inauguré au printemps prochain.
Puis il y a une cathédrale souterraine.
Ah, la cathédrale souterraine, ça c'est une vieille histoire. C'était une commande de Lang qui m'avait dit un jour, il y a 2 ans, quel monument voulez-vous ? Alors, bon, je ne savais pas. Il m'a dit, voulez-vous la station Cluny-la-Sorbonne, qui est la plus belle station de Paris, qui est superbe parce qu'elle a 3 voies, elle a une voûte surbaissée, c'est vraiment une cathédrale souterraine. Alors j'avais accepté, ça a été assez long, parce qu'il a fallu m'entendre avec les ingénieurs, ça a été épatant d'ailleurs du côté RATP. Parce qu'au début, les ingénieurs du génie civil, ils n'avaient jamais vu ce que je proposais. Et puis petit à petit, ils s'y sont mis, et ils se sont ils se sont pris au jeu, quoi. Bon, c'était une commande de Lang signée. Et puis Monsieur Lothar s'est fait un peu tirer l'oreille jusqu'à présent. Mais enfin, ça a l'air de redémarrer. Il y a eu un grand article dans Le Monde. Je sais qu'en ce moment, parce qu'évidemment, il y a 400 mètres carrés de mosaïque. Alors, évidemment, ça coûte assez cher. Je vais faire tomber tout le carrelage blanc, sauf à la base. Il y a un quai rouge, un quai bleu. C'est-à-dire que j'ai un immense oiseau de 20 mètres de long, dans les bleus, enfin bleu, violet, etc., froid. Et puis, un immense oiseau rouge en face. C'est dédié à tous les personnages célèbres qui ont fréquenté le quartier depuis Abélard et Héloïse jusqu'à maintenant, quoi. Et alors là, j'ai mis sur 2 fois 20 mètres de chaque côté de longueur et la hauteur de la station les signatures de tous ces gens qui ont, et en mosaïque aussi, des grands graffitis. C'est un peu comme les graffitis 68, seulement au lieu d'être Totor et Nénès, c'est Victor Hugo. Non seulement les grands écrivains, mais les rois, j'ai 4 ou 5 rois, quelques révolutionnaires, des scientifiques, etc. Toutes ces signatures, qui ont chacune 2 mètres, 2 mètres 50 de long, ça va me faire d'immenses graffitis en mosaïque sur les parois, voilà, en gros.
Et l'inquiétude qu'on pouvait avoir, elle se dissipe, ça va se faire, on ne doit plus être inquiet.
En ce moment, ils en sont à des pourparlers, parce que vraiment, la RATP, ils y tiennent, quoi. Alors, évidemment, ça coûte cher.
Enfin, il n'y a pas d'opposition fondamentale, ça devrait
pouvoir...
Non,
il n'y a pas d'opposition, puisque au fond, ils discutent pour l'instant, et que même la RATP a proposé d'avancer à l'État, mais à condition d'être remboursé, ce qui est assez normal, la moitié, je crois, du montant de la commande. Bien. Alors, si ça se fait, il y a longtemps que 6 mosaïstes qui sont prêts, là, et ça commencerait au début de l'année prochaine.
Jean-Pierre Greff, on va vous présenter, dire que vous êtes enseignant, que vous travaillez en ce moment un doctorat d'État sur l'œuvre de Jean Bazaine, et que c'est au fond, par vous, grâce à vous, que cette exposition Bazaine s'inaugure au Centre Norrois à Arras. Alors, Bazaine est dans les dernières toiles, ce choix, pourquoi ? Expliquez-le un peu.
Oui, alors en effet, ce choix des 15 dernières années ne va pas tout à fait de soi, parce qu'en fait... on aurait plutôt envie, a priori, de faire une grande rétrospective pour Jean Bazaine, parce que son œuvre est tellement cohérente et constitue une espèce de mouvement spiralaire depuis les années 40. Et ça paraît toujours très difficile de couper une période dans tout ce parcours. Alors j'ai choisi ces 15 dernières années, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais surtout montrer une image de Jean Bazaine, peintre contemporain. Trop souvent, peut-être, la critique un petit peu paresseuse nous restitue l'image de Jean Bazaine des années 50-60. Et je crois qu'il faut dire que Jean Bazaine, c'est surtout d'abord un peintre aussi des années 70 et des années 80. Et en particulier, on le voit surtout avec ses dernières toiles de 85, ces toiles à nouveau très blanches. Je crois que là, Jean Bazaine arrive véritablement à une liberté dans l'expression, qui est, je crois, la vraie jeunesse d'un peintre. Qui n'est pas celle des jeunes peintres tout juste bardés de leur diplôme des écoles des beaux-arts. Je le dis d'autant plus facilement que je suis moi-même assez jeune et que j'enseigne dans ce type d'établissement. Et je crois que la vraie jeunesse en peinture, c'est celle que, comme Jean Bazaine, on peut conquérir après 40 ou 50 ans dès de ce lent et exigeant exercice de la peinture.
Je voudrais votre réflexion sur justement l'arrivée de la blancheur de la toile. Et particulièrement dans celle qui est à gauche, l'espèce de montée de lumière qui est presque aveuglante.
Oui, en effet. Alors cette exposition aussi, c'est peut-être le deuxième trait de cohérence. Je l'ai conçue à partir du blanc. Je crois que c'est très très important, le blanc chez Bazaine. Et dans les toiles de 71-72 qui commencent cette exposition, on a déjà une série de toiles très blanches. Et puis en 15 ans, ça correspond un petit peu à une révolution spirale de l'œuvre de Bazaine. On revient à ce blanc, mais peut-être plus dépouillé encore, plus libre, plus évident d'une certaine manière. Et en même temps, ce blanc de 85, il est aussi la somme de tout le passage qui s'est fait depuis, et je pense notamment à ces grandes toiles majeures des années 75, par exemple, Naissance ou La traversée de l'aube, qui d'une certaine manière annoncent, enfin on peut le dire maintenant, après coup, parce que très difficile de voir comment la peinture évolue et va évoluer, mais revient là, très fort et... Bon, je ne sais pas comment le définir, ce blanc, c'est très difficile, mais j'ai écrit dans la préface du catalogue que c'était le plus muet de la couleur que l'on trouve là. Le blanc ne s'oppose pas à la couleur, là, chez Bazaine, il en est, je dirais, à la fois le sol et la ressource de la couleur. Et je crois qu'il y a une espèce de quête du blanc dans cette peinture. Du blanc qui est avant tout profondeur, qui est traversé d'espace, qui a valeur d'espace. Et je crois que c'est peut-être ça que Bazaine a toujours cherché depuis 50 ans. C'est un espace, une toile dans laquelle il y a une profondeur organique qui jaillit vers le spectateur.
Jean Bazaine, œuvre récente. Lecture des textes de Bazaine, extraits d'exercices de la peinture et de Jean Tardieu. Rémi Kirsch, réalisation Jacques Béraud. L'exposition Bazaine est visible jusqu'au 21 décembre prochain, 86, au Centre Norrois à Arras.
C'était Les Arts et les Gens, monographie Jean Bazaine par Pierre Descargues, réalisation Jacques Béraud, première diffusion sur France Culture le 10 novembre 1986. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.